Vous écoutez Radio Nil, il est 21h passées de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur les banquettes de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Une émission qui ce soir va nous permettre de revisiter la vie et l'œuvre de Boris Vian. En effet, ce soir, vous allez entendre Alain Coste. C'est un enregistrement assez ancien que j'avais fait, me semble-t-il, en 2011 à Tonnerre. Alain Coste est psychologue de formation, il a enseigné aux universités de Paris 5 et de Paris 7 ainsi qu'à HEC. Il exerce la psychanalyse clinique depuis 20 ans et la psychanalyse des textes littéraires depuis plus de 30 ans, publiant de nombreuses études sur Proust, Sartre, Camus et, en ce qui nous concerne, plus particulièrement sur Boris Vian. Alain Coste est l'auteur d'un essai intitulé « Boris Vian, le corps de l'écriture », une lecture psychanalytique du désir d'écrire vianesque avec une préface de Marc Lapro aux éditions Lambert-Lucas de Limoges. Alors pour ouvrir cette émission, nous allons revenir bien sûr sur la jeunesse de Boris Vian, Alain Coste rappelant tout de même que comme beaucoup d'entre nous, il a découvert Boris Vian à travers un de ses romans les plus connus intitulé « L'écume des jours » paru en 1946. Alain Coste.
On a découvert « L'écume des jours » en France dans les années 66-67, c'est-à-dire un peu avant 68, comme on l'a souvent remarqué. Et il est vrai que la publication de « L'écume des jours » à cette époque-là a fait un boom qui a étonné tout le monde, parce que jusqu'alors, personne ne lisait Boris Vian, surtout de son vivant.
De son vivant, effectivement, on rappellera que, à part le scandale de « J'irai cracher sur vos tombes », voilà, de son vivant, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment pu vivre convenablement de ses œuvres.
Alors que c'était une de ses plus chères ambitions.
Alors, Vian, aujourd'hui, est peut-être... Alors, de même que Sartre est ramené parfois à auteur pour classe terminale, Vian est un peu ramené à auteur pour adolescents.
Oui, il se trouve que c'est une œuvre qui parle aux adolescents, et les adolescents reçoivent 5 sur 5 son message, apparemment. Il y a des auteurs comme ça qui sont plus enclins à s'adresser à une certaine classe de lectorat que d'autres.
Alors, Vian est quand même difficilement saisissable, parce que c'est quelqu'un qui s'est adonné à la prose, bon, les romans, les nouvelles, le théâtre, la poésie, un petit peu de cinéma tout de même, la peinture, le jazz et la trompette au célébrissime tabou rue Dauphine, les chansons, plus de 400 chansons, des opéras, et puis il finit...
Chorégraphie, des peintures...
Le bricolage aussi, vous nous avez ce soir expliqué combien le bricolage était important dans la vie de Boris Vian, et il termine directeur artistique chez Philips. Quel parcours tout de même pour un homme malade que rien ne prédisposait finalement à mener une vie à 200 km/h, si je peux me permettre cette expression.
Oui, on peut se demander qu'est-ce qui faisait courir Boris Vian. C'était d'ailleurs le titre d'une conférence de Anne Clancier à Cerisy lorsqu'on a fait une décade sur Boris Vian. Moi, mon hypothèse, c'est que son corps l'exigeait, une certaine décharge pulsionnelle, étant donné les souffrances corporelles qu'il abritait. Et je pense que on peut émettre l'hypothèse que cette créativité tous azimuts était au service de cette décharge pulsionnelle dont il fallait se débarrasser. Comme un peu dit Ionesco, comment s'en débarrasser, vous savez, dans la pièce.
Amédée.
Par conséquent, nous devons un petit peu gommer l'image d'un Boris Vian joyeux, tonique. Il faut voir aussi derrière lui, peut-être, un homme angoissé, marqué depuis sa plus tendre enfance, par cette maladie de cœur qui, finalement, enfant, l'a empêché de vivre une enfance normale. D'ailleurs, vous avez expliqué ce soir combien Vian détestait son enfance.
Oui, parce que c'est une enfance ankylosée, médicalisée, engoncée dans les pullovers. C'est pas une image qu'il aimait de lui-même, bien sûr.
Donc c'est le corps emprisonné aussi par le vêtement protecteur, trop de protection aussi, on nuit à cet enfant.
Il a été hyper protégé physiquement et aussi empêché de jouer avec tout le monde. Ses deux frères étaient beaucoup plus libres de leurs mouvements et lui était toujours sous surveillance de sa mère, du médecin, de toutes ces craintes qui n'ont pas empêché d'ailleurs son mal d'empirer.
Vian détestait sa mère. Pour quelle raison?
Il a mis au rang des médecins, c'est-à-dire des gens qui l'empêchaient de jouer comme tout le monde. On peut dire que logiquement, il aurait pu détester sa maladie, mais on déteste en général les gens qui nous soignent.
Il y a aussi, dans l'enfance de Boris Vian, la faillite du père. Le fait que les Vian vont progressivement vivre de plus en plus modestement.
Oui.
Et au cours de son enfance, Boris Vian va jouer avec le petit Yehudi Menouhin. Pouvez-vous expliquer pour quelles raisons et dans quelles conditions Vian a été amené à côtoyer ce futur grand musicien, là encore?
C'est grâce à la crise de 1929.
Grâce ou à cause, effectivement.
Puisque c'est là que la fortune de la famille Vian s'écroule, que le père est forcé de se mettre au travail et de faire déménager sa famille dans la maison du gardien pour louer l'hôtel particulier à la famille Menuhin. C'est ce qui fait que Yehudi sera le compagnon de jeu pendant plusieurs années. Alors, ce sont des jeux souvent intellectuels, ils joueront beaucoup aux échecs ensemble, par exemple. La famille Vian avait créé un club d'échecs, avec le père aussi d'ailleurs. Et donc tous les gens du quartier venaient jouer aux échecs chez les Vian.
On parle beaucoup du père, et finalement il y a un événement tragique dans la jeunesse de Boris Vian, c'est l'assassinat du père le 22 novembre 1944. Paul Vian est assassiné par des rôdeurs, surpris en pleine nuit dans la cuisine de la maison des Vian à Ville-d'Avray. Et quelle a été la réaction du fils de Boris Vian suite à la mort tragique du père?
Sa femme m'a dit que pendant 3 semaines, il n'a pas pu dire un mot, tellement sidéré. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, bien sûr. Il avait 24 ans. C'était un jeune père, lui-même commençait. Et bien entendu, on peut imaginer le traumatisme que ça a été. La famille Vian avait traversé la guerre sans décès proche. Alain Vian, qui avait été prisonnier, était revenu sain et sauf.
Donc Alain Vian, c'est le frère aîné.
Le puits né.
D'accord.
Boris Vian est le deuxième et Alain est le troisième. Il a fallu que ce soit des cambrioleurs qui fassent entrer la famille dans le drame.
C'est mercredi et c'est Wagon-Livre, un wagon-livre entièrement consacré à la vie et à l'œuvre de Boris Vian avec notre invité Alain Coste, psychanalyste. Je rappelle qu'Alain Coste est l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Lambert-Lucas de Limoges, un essai intitulé « Boris Vian, le corps de l'écriture, une lecture psychanalytique du désir d'écrire viennesque ». On se retrouve dans une poignée de minutes sur Radion. Nous marquons, si vous le voulez bien, un premier intermède musical et nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 22h.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. vous. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue. Qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Alain Coste, quelle est l'influence de la première épouse de Boris Vian, Michel L'Église? Notamment, j'aurais que vous nous parliez du titre, de la trouvaille de Michel Vian, par rapport à ce fameux scandale de « J'irai cracher sur vos tombes ».
Michel Vian était très proche de son mari et de ce qu'il écrivait. C'est elle qui, quand il revenait de son travail avec ses manuscrits, c'est elle qui tapait à la machine. Donc elle a tapé à la machine pratiquement les 10 romans de Boris Vian. Et elle disait ce qu'elle en pensait à l'occasion. Ou qu'elle m'a dit qu'elle avait pleuré à l'enterrement de Chloé, par exemple, tout en tapant le texte. Mais vous faites allusion au texte, au titre de « J'irai cracher sur vos tombes », c'est Michel qui l'a trouvé. Boris avait pensé « J'irai danser sur vos tombes ». Elle avait trouvé que c'était un petit peu trop olé olé, enfin, c'était pas assez fort. C'est elle qui a proposé Cracher.
Alors, quelle est votre impression par rapport à ce livre qui, au départ, n'était qu'un canular, n'était qu'un amusement et qui a pris une ampleur colossale, au point tout de même que Vernon Sullivan, ce fameux alter negro, s'est retrouvé un peu inquiété par la censure, par un puritanisme fort dans cette France des années 50.
Oui. Les choses ont été un peu en deux étapes. La première, c'était l'indifférence, et le livre s'est vendu, pas trop, mais quand même, il s'est vendu sans problème. Et puis, il y a eu un assassinat dans le quartier Montparnasse, d'un type qui s'est suicidé après avoir tué sa maîtresse, et on a retrouvé, j'ai regressé sur vos tombes, l'exemplaire sur la table de nuit. On en a conclu que c'était ce livre qui était la cause de l'assassinat.
Il était ouvert à la page décrivant la strangulation d'une des sœurs Askiff.
Je crois.
C'est ça, hein.
Et du coup, un citoyen français, Daniel Parker, pour ne pas le nommer, s'est institué défenseur des bonnes mœurs publiques en France et a attaqué. Et donc ça s'est terminé par une censure du livre, qui existe toujours aujourd'hui. Elle est toujours active, ça n'a jamais été remis en question par un acte de justice. Mais évidemment, aucun gouvernement depuis Giscard d'Estaing n'a pensé interdire Boris Vian.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que J'irai cracher sur vos tombes frôle ou flirte parfois avec la pornographie ?
Oh, la pornographie, non.
Le viol d'une des sœurs Askiff, c'est tout de même, j'allais dire, choquant dans la mesure où c'est hors norme.
Oui, enfin.
On est loin du surréalisme, de la fantaisie vianesque de l'écume des jours.
Écoutez, c'est sûr. Il prend une autre identité pour écrire ça.
Oui.
Et c'est intéressant de voir comment on peut changer d'écriture en se changeant de fantasme d'écrivain. On se retrouve noir américain à sa table de travail. Et effectivement, en s'identifiant à des auteurs de séries noires, on se laisse aller à sa violence habituelle, je dirais, mais qui est là dans un cadre réaliste et non plus poétique ou féerique. Et ces fantasmes-là sont plus difficiles à supporter parce qu'ils sont inscrits dans une réalité. Le réalisme, évidemment, fait plus peur que la fiction. Dans la fiction, on peut assassiner plein de monde de façon épouvantable. C'est une fiction. C'est un peu comme quand on regarde au cinéma des dessins animés. On voit des collations, des démembrements, des corps qui s'éclatent, qui se reconstituent instantanément, etc. Mais à chaque instant, on peut se dire, ce n'est qu'un film, ce ne sont que des images, ce ne sont que des dessins. Si on voyait la même chose de façon réaliste, ce serait tout à fait insupportable. C'est un petit peu ce qui existe, ce qui arrive avec « J'irai cracher sur vos tombes ». Il n'a pas mesuré peut-être l'impact du réalisme dans l'esprit des lecteurs. Il a un petit peu attigé, c'est vrai.
Voilà donc un canular qui tout de même a eu des conséquences très lourdes sur la vie de Vian, parce qu'il est sorti très affecté des procès, parce qu'il a dû reconnaître plus tard qu'il était l'auteur.
Et vous savez ce qu'il a donné comme raison unique, si on ne peut pas s'amuser. Il a dit ça.
Mais est-ce à dire que Vian était en décalage avec les mœurs de son époque ?
Il était peut-être en avance, oui. Aujourd'hui, on n'oserait pas faire une cabale comme ça.
Alors j'ai envie de vous provoquer un peu, Alain Coste, parce que finalement, les œuvres de Vian, mais plus particulièrement ses deux derniers romans, je pense à L'Herbe Rouge et à L'Arrache-Cœur, ont surtout pour point commun un dénigrement de la psychanalyse. Alors comment un psychanalyste peut-il, j'allais dire, flirter, permettez-moi cette expression, parce qu'il y a de l'adoration, il y a de la passion quand vous parlez de l'œuvre de Vian, comment un psychanalyste peut-il prendre pour objet d'étude les œuvres d'un homme qui finalement n'adhérait pas à la psychanalyse? Cela vous fait sourire, Alain Coste.
Oui, parce que ça fait partie du métier. Est-ce que vous croyez que nos patients ne résistent pas à l'analyse? Alors, si avec nos patients, la société française et même certains philosophes aujourd'hui résistent encore à la psychanalyse. La psychanalyse est habituée aux résistances. Et je vous dirais même qu'une société où la psychanalyse serait entièrement acquise et ne serait pas critiquée, je me méfierais de cette psychanalyse-là. La psychanalyse, foncièrement, déplaît parce qu'elle parle de ce qui doit rester inconscient. Et effectivement, Vian est comme tout le monde, L'idée d'un inconscient lui le révulse. Il y a une notation dans Troubles dans les Andins. Un personnage dit « Oh ben j'ai fait cet acte-là, c'est sûrement mon inconscient. » Et il rajoute « Il ricana à l'idée de son inconscient. » Oui, ça dit bien les choses.
Y a-t-il beaucoup d'érotisme dans l'œuvre romanesque de Vian? Je vous dis cela parce que, par exemple, Nicolas, dans L'écume des jours, voit au loin des demoiselles, mais des jeunes adolescentes, et il dit, au toucher, je pense qu'elles ont 14-15 ans. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'érotisme dans l'œuvre de Vian? Ou, en tout cas, est-ce qu'il y a des fantasmes qui relèvent de pulsions sexuelles dans l'œuvre de Vian?
C'est assez mêlé, parce qu'effectivement, il y a des scènes érotiques, plus ou moins.
Il y a beaucoup de scènes d'amour gratuites aussi.
Oui. Et puis, en même temps, Colin, vous parlez de l'écume des jours, Colin est particulièrement timide et timoré. Et si vous regardez le texte à la loupe, vous verrez que c'est toujours Chloé qui demande d'être embrassée, d'être étreinte. Et Colin dit, attends, on n'est pas pressé, t'es malade, il y a le temps, il est toujours sur la réserve. Vous voyez, c'est plutôt la femme qui demande. Et il y a comme ça un désir féminin qui inquiète beaucoup les personnages de Vian et certainement Vian lui-même. Donc il y a un érotisme défensif. Une peur du sexe féminin qui est certainement derrière.
Si vous souhaitez approfondir l'approche psychanalytique du désir d'écrire vianesque, procurez-vous le livre de notre invité Alain Coste aux éditions Lambert-Lucas de Limoges, un essai intitulé « Boris Vian, le corps de l'écriture, une lecture psychanalytique du désir d'écrire vianesque » avec une préface de Marc Lapraud. On se retrouve dans une poignée de minutes, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h. Des choses.
tirer craché sur vos tombes. Sur vos tombes, ça c'est en novembre 1946. En 1947, donc paraît le célèbre roman L'écume des jours, que Queneau présentera comme le plus poignant roman d'amour contemporain. Alors il y a effectivement, c'est une histoire d'amour. Et dans cet univers de Vian, il y a une fantaisie absolument incroyable. C'est le, c'est, par exemple, c'est Colin qui se taille les paupières, c'est les Comédons en se voyant dans le miroir qui disparaissent d'un seul coup, enfin qui rentrent sous la peau tellement ils se trouvent laids, c'est le piano cocktail. Vian est très proche des surréalistes, courant artistique un peu daté par rapport au moment où il écrit ce roman. On pourrait dire qu'il est en retard là. Alors que triomphe l'existentialisme, on a parlé même de danseurs existentialistes dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Vian ne s'inscrit pas finalement dans le mouvement de son époque.
Non,
là, il semble être en retard. Avoir...
La seule chose qui l'intéresse, c'est d'écrire des livres qu'il aurait aimé lire. Mais comme il ne les trouve pas en vitrine, il les écrit. C'est ce qu'il a souvent dit. Donc il ne s'intéresse pas. C'est ce qui lui plaît, quoi, finalement. Et. Il ne s'inscrit pas dans une histoire littéraire particulière.
Il a, vous nous avez expliqué ce soir, qu'il a finalement jamais ménagé la République des Lettres.
Ben non. Il a fort peu de modèles. Et il les a souvent répété. Ces modèles sont Rabelais, en se plaignant que l'école lui a gâché parce qu'elle lui a traduit. Benjamin Constant, l'Adolphe de Benjamin Constant, Faulkner, Pylône de Faulkner, Alice au Pays des Merveilles, Carole, et Alfred Jarry. Et puis Queneau pour les contemporains. Voilà, ce sont ces six références littéraires. Et vous voyez que ce sont des références un peu marginales.
Oui.
Jarry, Carole... Rabelais même. C'est essentiellement un auteur marginal, Boris Vian, qui aurait bien voulu faire partie du monde des lettres. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses qui l'ont distancé.
Mais peut-on dire que Vian a été tenu à l'écart aussi du monde des lettres par les tenants, grands de chez Gallimard, les Mauriac qui... Mauriac, Camus étaient un peu en concurrent dans ces années 50, puisque Camus volait le jeune public à Mauriac.
Oui, oui.
Et c'était deux Frances aussi très différentes qui s'opposaient.
Les choses se sont passées de cet ordre-là à propos du prix de la Pléiade pour l'écume des jours. Raymond Queneau avait dit 6 mois avant à Boris Vian... il va y avoir un prix de la Pléiade, si tu crées une belle histoire d'amour... T'auras sans doute le prix. Donc il a écrit L'écume des jours pour avoir le prix de la Pléiade. C'était un prix qui avait déjà récompensé Mouloudji, je ne sais plus qui, depuis 2 ou 3 ans. C'était un prix assez jeune et interne. Et donc c'était simplement les lecteurs du comité de lecture de Gallimard qui décidaient. Queneau était influent, Camus était d'accord, quelques autres. Je ne sais plus. Par contre, Jean Paulhan était contre. Et puis c'est la clique de Jean Paulhan qui a gagné. Et à la place de Boris Vian, c'était l'abbé Grosjean pour des poèmes évangéliques.
Donc une France des écrivains de droite, un peu les hussards.
Voilà. Il en a été mortifié. Et quand quelques semaines après, il écrit « J'irai cracher sur vos tombes », il y a une espèce de vengeance sur le monde des lettres. Derrière dans cette écriture-là. On peut dire que quand il assassine Jane Askin et sa sœur, c'est un peu les lettres qu'il assassine.
D'accord. Alors, dans L'écume des jours, je reviens à ce roman phare, dans L'écume des jours, il est tout de même question d'amour, il est question de maladie, il est question de mort. Amour, maladie, mort... pourraient être 3 thèmes qui désignent et résumeraient assez bien la brève existence de Boris Vian.
Oui, bien sûr. Son fantasme pour écrire L'écume des jours, on le sait parce qu'il a laissé des notes préparatoires que j'ai fait publier à l'époque, c'était de commencer de dire les contes de fées s'arrêtent quand le joli a épousé sa jolie et qui vont avoir beaucoup d'enfants. Et l'histoire s'arrête là et ne dit pas que c'est là que les emmerdements commencent. Et donc il commence par écrire L'écume des jours sur un mode féerique. Le terme existe dans les premières pages, féerique. Et puis bientôt ça se gâte, comme on sait. Et l'idée, c'est d'écrire un roman, la suite des contes de fées, et on voit ce que ça donne.
Et concernant ce nénuphar qui pousse dans les poumons de Chloé, alors, il ne vous est pas possible, brièvement, de donner une interprétation possible à cette fleur aquatique ?
Brièvement, c'est difficile, vous savez.
Brièvement, c'est difficile.
Si on est psychanalyste kleinien, on se dit c'est la pulsion de mort ou le mauvais objet. Si on est psychanalyste freudien, on a des raisons de penser que le nénuphar, c'est le sexe féminin qui fait peur à Colin. Donc le nénuphar vagin. Si on pense à la psychobiographie, on pense que c'est son cœur. Qu'il a déporté sa cardiopathie dans le corps d'une femme. Si on pense à la biographie, Michel Vian me dit c'est ma maladie de base d'eau, puisqu'à l'époque j'avais une maladie de base d'eau. Donc le nénuphar, c'est ma thyroïde malade. Donc vous voyez, on ne manque pas de nénuphar. Moi je ne me suis pas satisfait de ça parce que ce sont un peu des plaquages comme ça, le plaquage théorique ou le plaquage biographique qui ne me satisfont pas. Moi, je préfère donner la parole au texte. Parce que la théorie ou la biographie, ça court-circuite le texte. Moi, je veux toujours donner la parole aux autres. C'est mon métier. Bon. Donc, je fais pareil avec les textes. Et alors, j'ai lu des dizaines de fois la relation de Colin à Chloé pour m'apercevoir qu'en fin de compte, il n'aimait pas Chloé, mais qu'il est amoureux d'Alice. Dès le début, il est amoureux d'Alice. Et ça dure pendant toute l'histoire. Alice le sait, mais elle appartient à Chic. Comme dit Nicolas, elle appartient à Chic. Bon. Donc il se retient, il pense toujours à Alice, il arrive dans la surprise partie chez Isis, il trouve Alice, il drague Isis aussi, et puis on le pousse vers Chloé, et il tombe amoureux de Chloé. Comme si c'était la dernière ressource avant de faire une bêtise avec Alice. C'est-à-dire, il veut être amoureux, mais il n'a pas le droit d'avoir Alice, donc, faute de mieux, il prend Chloé. Et finalement, ça se gâte parce que c'est pas son vrai amour. Regardez plus généralement les femmes typiques que désire Boris Vian. Ce sont toujours des grandes blondes, comme Ursula Kubler.
Mais sa aussi, deuxième femme, donc,
oui,
Ursula Kubler.
Mais sa première femme était blonde aussi. Tous les personnages vianesques tombent amoureux de femmes blondes. Il y a quelques brunes qui sont la peau mate, qui sont pas belles. Et bien, c'est le portrait de Chloé, ça. Elle est brune, elle a la peau mate. C'est pas le type vianesque. Alors, si on regarde de près les textes, on s'aperçoit que il y a des attouchements sur le cou de Chloé. Il est très attentif au cou de Chloé. Et lors de la première rencontre, il étouffe de tout, il tousse beaucoup. Et quelques temps après, c'est Chloé qui tousse. J'en ai conçu que c'était Chloé, que le nénuphar était l'agressivité de Colin infusée dans le corps de Chloé. Et que son nénuphar, c'était le sien finalement. Et que c'était une sorte de meurtre par dépit amoureux. Parce que Chloé, elle est bien gentille, Mais elle n'a qu'un seul défaut, c'est de n'être pas Élise. Voilà. C'est comme ça que j'interprète l'écume des jours.
Alors, vous avez parlé de Chic. Chic, lui, il se ruine pour se procurer des éditions de luxe de son auteur fétiche, la fameuse contrepétrie Jean-Saul Partre. Alors, finalement, dans l'écume des jours, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut penser que Vian a de la sympathie pour l'existentialisme ? Ou est-ce que, vraiment, il y a moquerie profonde ? Est-ce que tout est jeté à travers ce Jean-Saul Partre et la fameuse duchesse de Beauvoir ?
Non, c'est pas une charge contre Sartre. C'est une transposition épique, voire poétique, amusante en tout cas.
Oui, parce que Partre présente, par exemple, au public lors de sa conférence, je cite, des échantillons de vomi empaillé.
Oui, oui.
Par exemple.
Oui. Ça a fait étouffer de rire Jean-Paul Sartre, qui a beaucoup rigolé en lisant ça. Et il n'a jamais pris mal, et puis il avait raison, parce que c'était pas une critique. Mais par ailleurs, Vian s'est toujours méfié des philosophes. Et il a dit, je ne suis pas existentialiste, parce que pour les existentialistes, l'essence précède l'existence. L'existence précède l'essence. Et lui ajoute, alors que moi je crois qu'il n'y a pas d'essence. Et c'était une période de restriction de l'essence. Donc il y a en plus un jeu de mots. Donc il y a un parti pris de ne pas prendre au sérieux les philosophes, dont il critique le manque d'informations scientifiques, par exemple. La science est très importante pour Vian, et il trouve que les philosophes refont le monde sans se tenir compte des progrès scientifiques. Bon, c'est vrai ou c'est faux, mais enfin, c'est sa position.
Nous marquons la dernière pause musicale de notre rendez-vous littéraire. Je rappelle que l'émission de ce soir est consacrée à Boris Vian, avec cet entretien enregistré il y a quelques années, c'était à Tonnerre, avec Alain Coste, psychanalyste. Alain Coste a fait paraître il y a quelques années un essai paru aux éditions Lambert-Lucas de Limoges, un essai intitulé « Boris Vian, le corps de l'écriture, une lecture psychanalytique du désir d'écrire viennesque ». Très bonne soirée sur Radion, un nouvel intermède musical. On se retrouve dans une poignée de minutes. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Qu'ils deviennent colons pour rêver, rêver.
les poèmes de Michel, les enfants des airs. Pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent colons. Pour rêver, rêver. Dans les poèmes de Michel, les enfants des airs. Pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent colons.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Vous avez clairement expliqué ce soir que Vian était aussi un bricoleur, c'est un créateur, bon, c'est un ingénieur de formation, cette fameuse roue élastique qu'il a voulu faire breveter. Vous nous avez même révélé ce soir, Alain Coste, que Boris Vian avait voulu faire breveter une machine à confesser.
Je ne crois pas qu'il a voulu la faire breveter, mais il en a jeté les plans détaillés sur une table de restaurant, une nappe de restaurant.
Et alors comment représenter cette...
Écoutez, comme un divan de psychanalyste, mais avec des pointes de clous tapissées comme pour les fakirs, vous savez. Donc ça, on n'a pas encore en psychanalyse été jusque-là.
Heureusement. Ce bricolage de Vian, vous dites, est aussi, de sa part, la manifestation inconsciente de la volonté de vouloir que la médecine puisse bricoler son corps et notamment son cœur pour le guérir.
C'est une hypothèse. Quand on le voit s'échiner sur des vieux moteurs poussifs qu'il a acheté une poignée de pain et qui ne tourne pas à plus de 5 km, on se dit pourquoi tant d'énergie et de passion pour réparer des tacos pareils. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est peut-être pour se soigner lui-même. Parce que finalement, il émet beaucoup d'énergie. Si on gardait l'hypothèse, le cliché, qu'à force de s'activer, Vian est suicidaire, il serait mort depuis longtemps. Or, il a quand même duré, finalement, jusqu'à là. C'est ce que ses médecins lui prédisaient. Alors que les médecins ne lui disaient pas de s'activer autant. Son activité n'a pas amputé, apparemment, les prévisions médicales. Il est mort en temps et en heure avant 40 ans, comme on lui avait prédit. Mais au moins, il n'a pas perdu son temps pendant ce temps-là.
Il n'a pas perdu son temps.
Et peut-être qu'il était moins angoissé en pouvant décharger tout ça, dans toutes ces hyperactivités, tous azimuts.
Alors, on peut s'étonner de voir un cardiaque pratiquer la trompette. C'est presque une abomination pour un médecin.
Les cardiologues n'étaient pas contents, bien sûr.
Et comment le psychanalyste peut-il expliquer volonté suicidaire?
Je vous dis, moi, je renonçais à la théorie suicidaire en me disant que c'était une autothérapie. Et que toutes ces activités-là, finalement, ont permis à Vian de continuer sans être trop angoissé.
Vian avait aussi des haines, enfin des antipathies. Il n'aimait pas les militaires, il n'aimait pas les gendarmes, il n'aimait pas il n'aimait pas le clergé, comme les surréalistes finalement, comme Prévert. Ouais, il y a beaucoup de haine.
C'était un peu la mode, l'anticléricalisme début du XXe siècle aussi. Oui. On a le sentiment, vous avez raison de souligner cette longue liste d'ennemis qui se trouvaient, on a le sentiment que Vian avait besoin, s'il n'avait pas d'ennemis, ça n'allait pas. C'est un être essentiellement polémique. Il aime bien écrire contre. Et c'est là où il est le meilleur, je pense. Il est arrivé d'écrire pour, parce qu'il a écrit un article pour défendre Sartre quand il était attaqué, par exemple. Mais enfin, c'est rare, la plupart du temps, c'était contre. Et il était content d'avoir quelqu'un en face pour pouvoir se faire plaisir et se décharger.
Et justement, le fait que Vian soit capable de se positionner contre, ça le met dans une position de rebelle. Et en cela, on peut dire qu'il est un grand adolescent ou qu'il n'est jamais sorti de l'adolescence. Est-ce que Vian, un jour, est rentré dans l'âge adulte? Ou alors n'a-t-il été qu'une moyenne personne? Ça aussi, j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs ce qu'est une moyenne personne. Mais d'abord, est-ce que Vian est un grand adolescent?
On peut dire ça. On peut dire ça dans une certaine mesure. Il a continué sur sa lancée à vivre comme il était à 18 ans. Moins sa timidité quand même, parce qu'il était très timide et très, très apeuré d'approcher les femmes. Ça lui a passé, Dieu merci, pour lui. Mais sinon, pour le reste, pour sa haine de la hiérarchie, pour ses bagarres contre l'ordre établi, enfin, beaucoup de choses ressemblent à la psychologie de l'adolescent chez lui. Jusqu'à ses 39 ans.
Et alors il crée une catégorie intermédiaire entre l'enfance et la maturité. Il crée la catégorie des moyennes personnes.
Des moyennes personnes.
Alors, qui sont les moyennes personnes, Alain
Coste? À mon avis, ce sont des gens qui sont à peine sortis de l'adolescence, qui peuvent avoir 20 ou 30 ans, qui sont éventuellement dans le monde du travail. On en trouve plusieurs comme ça, dans Vers Coquin et le Plancton, qui sont les collègues de Boris Vian dans son bureau, et qui sont certains déjà éteints, et d'autres qui sont encore adolescents. Ça dépend. Et donc, les moyennes personnes, pour Boris Vian, ce sont les grands jeunes, comme on dit dans nos campagnes, des jeunes adultes.
Les jeunes adultes, c'est cela.
Voilà. Qui n'ont pas encore renoncé à leur psychologie enfantine et adolescente.
Il y avait chez Vian une urgence de vivre, puisque la maladie l'empêchait finalement d'envisager de vivre longtemps. Et dans L'écume des jours, je cite... Je crois que c'est Nicolas qui dit cela à Colin. Les gens perdent leur temps à vivre, alors il ne leur en reste plus pour travailler. Et est-ce qu'on peut dire que Vian s'est positionné d'une certaine manière du côté des prolétaires, du côté des ouvriers, dénonçant les conditions de travail détestables et abjectes?
C'est venu progressivement, ça. Et quand il était à l'Office des papiers, c'était quand même en 1946... à 26 ans, il dit par exemple qu'il ne pourra pas dormir tranquille tant qu'il saura que dans les séchoirs de Corbeil, je crois, il y a des gens qui passent leur vie à décoller le calcaire au fond des cuves et que leur vie ne vaut pas celle d'un cheval. Il y a une conscience du monde du travail déjà dans L'écume des jours.
Et puis il y a des fonctions, enfin il y a des travaux étranges comme l'annonceur de mauvaises nouvelles ou Colin qui est payé pour couver des fusils. C'est sont d'étranges activités.
Il invente des nouveaux métiers.
Il a peut-être d'ailleurs, à mon avis, des solutions à proposer aux politiques pour résorber le chômage.
Des solutions imaginaires, certainement.
Oui. Et Vian et la politique, Vian est un imbécile politique, c'est quelqu'un totalement neutre, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le courage de s'engager ou qui n'a jamais souhaité choisir un camp contre un autre.
D'où il venait, c'est-à-dire dans une banlieue riche, et dans une famille riche, effectivement, et protectrice, hyper protectrice même, et avec sa maladie qui l'isolait aussi. Il n'était pas dans des situations très favorables pour s'ouvrir au monde social, aux luttes des classes, ou je ne sais quoi. Ça lui est venu progressivement, d'abord dans le monde du travail, enfin dans les années 46, 47, 48, Et dans les années 50, il commence à écrire un livre qui s'appelle « Le traité de civisme », où il accumule des notes sur le monde du travail et sur les... Il fait beaucoup de lectures sur les philosophes du travail, sur les écrits syndicaux, tout ça. C'est un livre qui n'est pas écrit, mais enfin, qui est un recueil qui est intéressant à feuilleter, parce qu'on voit quand même son souci de refaire le monde. Il y a un côté un peu utopiste chez Boris Vian.
On est sur le point de conclure, Alain Coste. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de Boris Vian? Si je vous demandais, par exemple, de ne citer que trois mots qui résumeraient Vian et son œuvre, adjectif ou non, trois termes clés.
Je vous en donnerai que deux, c'est aigre doux. C'est-à-dire que vous avez quelque chose d'acide continuellement en sous-main chez Vian, mais c'est enrobé, comme il le dit, il donne ses poèmes. Sont construits à la manière des amandes amères. On enrobe de sucre les amandes amères. Voilà. Ben, c'est exactement le style, la structure de la poétique vianesque.
Relire Boris Vian en 2017, ce n'est peut-être pas complètement inutile, 70 ans après la publication de L'écume des jours. En tout cas, j'espère que cet entretien avec le psychanalyste Alain Coste vous aura permis, en tout cas, de survoler la vie et l'œuvre de Boris Vian. Mais je crois qu'un des plus grands plaisirs que l'on puisse avoir, c'est de se plonger directement dans les chansons, dans les textes et les romans de Boris Vian, une œuvre extrêmement variée et qui reste, me semble-t-il, d'une grande modernité. Merci de nous avoir suivis ce soir à bord de Wagon Livre sur Radio. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 8 février, toujours à 21h. Nous serons en compagnie de Michel Benoît, qui est essayiste, historien, homme de théâtre, pour un essai absolument passionnant intitulé « Les morts mystérieuses de l'histoire » disponible aux éditions Erol. C'est mercredi prochain, nous reviendrons notamment sur la mort du roi, enfin de l'héritier de la couronne de France, Louis XVII. Nous reviendrons sur les étranges conditions du suicide, de la mort d'Hitler. Nous parlerons aussi de Joachim Pepper. Tout cela, c'est mercredi 8 février à 21h sur Radion. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.